nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Vous attachez à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Michel Vinocq, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons, donc nous avons fait une émission préalablement donc autour de votre livre « La droite, hier et aujourd'hui ». Et je n'oublie pas que vous êtes aussi un historien de la vie intellectuelle, des intellectuels. Vous êtes, entre autres choses, parce que vous avez écrit beaucoup de livres, l'auteur donc de « Le siècle des intellectuels » 1997. Et puis ce très beau dictionnaire donc dirigé par vous et par Jacques Julliard, qui s'appelle le Dictionnaire des intellectuels français, qui date de 1996. Et puis, dans le prolongement de ces deux livres-là, vous venez de faire paraître, donc l'année dernière, en 2011, L'effet de génération, donc une brève histoire des intellectuels français, édition Thierry Marchès. Je voudrais reprendre, si ça vous convient, un entretien que nous avons eu ici à Canal Académie avec Pierre Nora, autour donc de ce gros volume, qui est tout à fait passionnant, au moment des 30 ans de la revue Le Débat, qui s'appelle « De quoi l'avenir intellectuel sera-t-il fait ?». Alors, pourquoi est-ce que je me permets de reprendre ce livre-là? Parce que, effectivement, dedans, un ensemble de points de vue s'était exprimé sur, à la fois, les enjeux de ces 30 ans, le rétrécissement, je reprends un ensemble de termes de Pierre Nora, ce rétrécissement de l'horizon, cette atomisation de la vie de l'esprit, ce provincialisme français. Et donc, à partir de là, la question se posait de savoir quels étaient un peu les enjeux de la vie intellectuelle ou les nouveaux enjeux de la vie intellectuelle. Donc, dans ce livre, L'effet de génération, vous dénoncez ce que vous appelez les nouveaux polycarpes à la suite de Flaubert, c'est-à-dire tous ceux qui déplorent le siècle dans lequel ils sont et qui semblent, je reprends presque vos termes, se gargariser de cette décadence et de cette, et je vous cite, de ce triomphe du médiocre qui ne fait que croître et embellir. Et vous citez comme auteur en particulier Alain Finkielkraut, Philippe Meret, Houellebecq. Donc je voudrais, première question, voir un peu avec vous pourquoi, à votre avis, ces intellectuels-là, ou ces nouveaux polycarpes de notre époque, donc si ces intellectuels-là sont de ceux qui dénoncent une montée de l'individualisme avec tous les défauts que cela peut avoir, ou est-ce qu'ils appartiennent à un camp anti-moderne qui pourrait être rangé dans la catégorie telle que analysée par Antoine Compagnon et qui déplore en permanence l'époque sans en voir, et on verra après, les éléments positifs?
C'est une question difficile parce que interviennent plusieurs éléments peut-être contradictoires. Et d'abord, qu'est-ce qu'un intellectuel? C'est la question. Et dans les travaux que vous avez cités, moi j'ai pris la définition, qui n'est pas exclusive, mais il faut bien en prendre une, qui est celle de l'engagement, au fond. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a acquis une certaine réputation dans un domaine de la connaissance, du savoir, de l'écriture, etc., et qui va utiliser cette réputation hors champ, hors de son champ, pour se mêler de la vie politique, de la vie publique, disons, en général, et politique en particulier. Sartre avait cette définition à ce propos. Il disait « L'intellectuel, celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas ». Vous voyez dans quel sens il disait cela. Donc, si nous prenons cette définition, il est certain qu'il y a eu un âge d'or des intellectuels. Il y a eu des cycles de cette histoire des intellectuels. Et aujourd'hui, on peut se demander si nous ne voyons pas effectivement la fin des intellectuels dans ce sens-là. D'un autre côté, autre définition, mais qui n'était pas donc la mienne dans les différents travaux que j'ai faits, il y a un savoir intellectuel, une création intellectuelle qui n'a rien à voir avec l'engagement. Et de ce point de vue, on peut se poser la question, est-ce que le déclin des intellectuels engagés correspond aussi à un déclin de la vie intellectuelle en France? Alors, vous voyez que c'est deux questions quand même différentes. Sur le premier point, je suis plus à l'aise, parce que, bon, depuis des années, j'ai étudié cet engagement des intellectuels. J'observe ceci, c'est qu'il y a eu un âge d'or, disais-je, Et peut-être que c'est l'affaire Dreyfus qui en est la période la plus pure, au fond. Puisque dans l'affaire Dreyfus, vous avez une sorte de bataille frontale entre deux types d'intellectuels, ceux qui s'appellent intellectuels, et puis ceux qui refusent le mot, mais qui sont des intellectuels de droite, que les intellectuels anti-Dreyfusards, nationalistes, etc. Alors, c'est un moment très pur, puisque ces intellectuels Dreyfusards, donc, défendent des grandes valeurs, avant tout, la justice, la vérité, mais ils ne défendent pas un parti politique, ils ne défendent pas un régime politique. Non, ils défendent des valeurs universelles. Voilà. Et c'est pourquoi c'est le moment paradigmatique, n'est-ce pas, de l'histoire des intellectuels en France, même si auparavant, il y a d'autres exemples. On ne les appelait pas des intellectuels, mais on pouvait les appeler des gens de lettres ou des philosophes au XVIIIe siècle qui pouvaient, comme Voltaire et autres, intervenir dans le champ public grâce à leur réputation d'écrivain. Alors ensuite, il y a eu une sorte de dérive. Une dérive qui a été du reste dénoncée par Julien Binda en 1927 lorsqu'il a écrit La trahison des clercs. Et qu'est-ce qu'il entendait par là? C'est que, précisément, ces intellectuels Dreyfusards, eh bien, désormais, après la guerre mondiale, devenaient de plus en plus des porte-paroles ou des échos des mouvements politiques, des partis politiques. Alors, ce sera évidemment encore plus vrai dans les années 30, lorsqu'on verra ces batailles de pétitions, et là encore des batailles frontales, mais qui sont des batailles où les intellectuels sont plutôt à la remorque des grands mouvements politiques. Ce ne sont plus eux qui véritablement innovent et défendent les grandes valeurs, mais ils défendent des positions politiques. Je crois qu'il y a eu un autre moment où les intellectuels ont repris véritablement de l'autorité autonome, ça a été la guerre d'Algérie. Parce que pendant la guerre d'Algérie, on n'a pas vu les partis politiques de gauche particulièrement à l'avant-garde des dénonciations de la torture, par exemple, ou à l'avant-garde de la volonté de paix, etc. Et même l'un d'eux, le Parti Socialiste, SFIO, c'est lui qui faisait la guerre.
Était au pouvoir.
Alors donc, ce sont les intellectuels qui, en 1956, surtout dans l'année 1957, on a vu là une sorte de renouvellement de l'affaire Dreyfus, si vous voulez, sur le sujet de la torture. Torture qui était le fait, évidemment, des deux camps, mais qui était dénoncé par les Français, la torture française, de l'armée française, qui était dénoncée par ces intellectuels. Et à ce moment-là, ils ne sont pas derrière les partis. Et ces intellectuels de Sartre à Pierre-Henri Simon appartiennent à des catégories très différentes. François Mauriac, qui est un chrétien comme Pierre-Henri Simon, Sartre de l'autre côté, etc. Henri Maroux, enfin bref, tous ces gens qui vont protester, porter très haut, n'est-ce pas, la défense, disons, des droits de l'homme, si vous voulez, eh bien là, il y a eu quelque chose qui a ressemblé, à mon avis, à la période de l'affaire Dreyfus. Je me souviens d'un moment, j'étais étudiant, j'ai assisté à une cérémonie extrêmement émouvante à la Sorbonne. C'était la soutenance de thèse de Maurice Audin, qui avait disparu, ça veut dire qu'il avait été assassiné sous la torture, et que cette soutenance de thèse de mathématiques avait été faite in absentia, n'est-ce pas, dans son absence, et c'était Laurent Schwartz, qui était médaille Field, qui exposait la thèse donc, de Maurice Audin, dans un amphithéâtre qui était absolument figé dans un silence, dans un respect terrible, quoi. Et à la fin, le président du jury a dit « Je vous demande de ne pas applaudir et nous allons faire une minute de silence. » Bon, là, il y avait quelque chose, n'est-ce pas, qui n'appartenait pas à l'esprit partisan. C'était la défense des valeurs.
Des principes, oui.
Voilà. Et puis, ensuite, il y a eu le problème communiste,
oui,
qui est antérieur, mais qui va se poursuivre au-delà de la guerre d'Algérie. Le problème communiste, c'est-à-dire que beaucoup d'intellectuels, après la Deuxième Guerre mondiale, sont entrés au Parti communiste ou sont devenus des compagnons de route. Et là, c'est vraiment une attitude que je dirais qui n'a rien à voir avec l'attitude refusarde. Hein. Mmh. C'est précisément se mettre au service du parti. Et au service du parti, pour des raisons certainement très nobles, hein. La défense du prolétariat, d'une révolution qui ouvrira la porte à une société sans classe, etc. Mais, en attendant, c'était un alignement. Et un alignement non seulement sur un parti national, mais un alignement sur un mouvement communiste international dont les ficelles étaient tirées par Staline, par Moscou. Donc il y a eu ce moment de fléchissement des intellectuels, un très grand nombre d'intellectuels, et en particulier dans les années donc, qui ont suivi vraiment la Deuxième Guerre mondiale, une sorte d'intimidation par le marxisme, par le communisme, au point que même des intellectuels de droite, n'est-ce pas, à l'université en particulier, n'osaient pas dire leur hostilité au communisme, hein, certainement pas. Le mot anticommunisme, c'était une sorte de péché horrible. Et rappelons-nous la phrase de Sartre, n'est-ce pas, tout anticommuniste.
Un chien.
Exactement. Donc il y a eu cette période terrible de fascination, parfois de militantisme, qui s'est brusquement fracturé. D'abord, plus important était 1956, le rapport Khrouchtchev au 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Ensuite, la même année, l'intervention des chars soviétiques en Hongrie contre les ouvriers hongrois. Alors là, ça a été le début d'une séparation, d'une rupture qui s'est faite. Rappelons-nous des écrivains comme Claude Roy, Roger Vaillant, bon, etc., qui ont quitté le Parti communiste, d'autres qui vont le quitter plus discrètement, ils sont moins connus. Et tout cela va remettre en question l'engagement. Et puis surtout, évidemment, lorsque arrive la chute du mur de Berlin et la fin du communisme international, que devient l'engagement marxiste ? Alors, pour cette raison, cette histoire de l'engagement a beaucoup varié, a été quelque part une déviation, et puis s'est renouvelée sans doute après, sur d'autres thèmes, des thèmes plus ponctuels, et nous avons vu par exemple les idées de Michel Foucault, par exemple, qui nous a dit que l'intellectuel global, le général, celui qui pouvait intervenir surtout en raison de son statut d'intellectuel, eh bien non, c'était fini. Le grand écrivain, c'était fini. Le grand intellectuel, c'était fini.
Il fallait des intellectuels spécifiques.
Voilà. Ce qu'il fallait défendre, c'était la théorie de l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire celui qui avait, par son métier, sa profession, ses recherches, une véritable compétence dans un domaine donné, et qui va utiliser cette compétence, là nous retrouvons le schéma de l'intellectuel, pour intervenir publiquement, mais en connaissance de cause, sur ce qu'il connaît, et pour dénoncer tel ou tel scandale, telle ou telle inégalité, injustice, etc. Il y a eu aussi, parallèlement à cela, le mouvement humanitaire, les French Doctors, etc. Donc une reconversion, si vous voulez, du mouvement intellectuel qui s'est faite. Et aujourd'hui, je dirais que ce qui est peut-être caractérise notre temps, c'est évidemment l'hyperpuissance des médias et le fait que ces intellectuels engagés traditionnels se réduisent à quelques figures médiatiques que l'on voit se manifester régulièrement, mais qui ne représente plus tellement ce qu'étaient justement ces intellectuels engagés des temps héroïques.
Alors, les intellectuels engagés d'aujourd'hui, ceux qui apparaissent dans les médias, donc font-ils partie, selon vous, de ces polycarpes éternels qui regrettent pour partie le temps passé, ce que l'école, puisqu'on parlait de Finkielkraut, était autrefois? Donc, est-ce que vous considérez que ceux-là sont injustes vis-à-vis de l'époque ou ils ne font que, justement, pointer les dérives d'un individualisme livré à lui-même, tel que décrit en 1835 et 1840 par Tocqueville de façon prophétique?
Alors, précisons d'abord le mot Polycarpe, Saint-Polycarpe, vous savez, c'est dans la correspondance de Flaubert, on le trouve assez souvent, et il explique que Saint-Polycarpe était cet évêque, n'est-ce pas, qui s'exclamait régulièrement « Quelle époque ? Dans quelle époque nous vivons ?» Donc, Ça, c'est l'origine. Mmh. Ensuite, nous avons écouté Roland Barthes au Collège de France, qui en a fait une sorte de concept sous le nom de polycarpisme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, justement, cette tendance antimoderne, profondément antimoderne, antimoderniste, qui est celle de, c'est vrai, de quelques écrivains, puisque ces écrivains sont revenus de nombreuses déceptions, qu'il s'agisse de la déception communiste, qu'il s'agisse de la déception de mai 68, et au fond de cette idée qu'aujourd'hui, tout paraît se valoir, la gauche, la droite, il n'y a plus ces grands affrontements, ces grands enjeux d'idées, ces grands enjeux philosophiques, politiques. On a l'impression d'être dans une société, avant tout, une société de consommation. Et quand on dit de communication, c'est pas tellement la communication des grandes idées, mais c'est plutôt la communication des médias, ouais. Des médias de masse qui aplatissent tout, qui vulgarisent tout. Alors, est-ce que le polycarpisme est une tendance très forte ? C'est une tendance générale, elle n'affecte pas seulement les intellectuels. Pour les uns, c'est une certaine nostalgie d'un âge d'or qui n'a jamais existé du reste, mais enfin bon, c'était mieux avant. Chez les autres, c'est effectivement le constat que les instances intellectuelles fonctionnent mal en France, à commencer par l'école, dont la crise est toujours dénoncée, aussi bien depuis l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, aux universités. Crise, alors pour d'autres, ce qui est peut-être plus discutable, parce que difficile à vérifier, crise de la production intellectuelle, de la production en particulier littéraire ou philosophique. On les a perdus, les grands noms, les grands philosophes, les Foucault, les autres ne sont plus là, et par conséquent, qu'est-ce qui reste en France ? D'un autre côté, c'est difficile d'estimer cela, de l'évaluer, car beaucoup d'écrivains ou de philosophes n'ont été reconnus qu'après leur mort, et même parfois longtemps après leur mort. Quand on songe à Stendhal, quand on songe à bien d'autres auteurs, que les contemporains n'ont pas reconnus. Personnellement, je serais incapable de vous dire quel est l'état aujourd'hui de la littérature française. On s'en plaint tout le temps, on dit tout le temps le roman français, il n'y a plus rien, mais je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Peut-être que parmi les centaines de romans de langue française qui sont publiés par an, il y a peut-être quelques pépites dont on reconnaîtra la valeur bien plus tard. Et de même, la poésie qui est discrète, parce qu'elle ne se vend pas. Alors donc, mais il y a peut-être de grands poètes que nous ignorons, etc. Moi, je ne veux pas me rallier, par conséquent, à cette espèce de polycarpisme, donc à cette espèce de...
Que vous dénoncez, hein.
Que je dénonce sans violence, avec modération, et je vais vous dire pourquoi avec modération, parce que je crois que nous avons tous, au fond de nous-mêmes, une dimension polycarpienne, appelons ça comme cela, parce que, vous savez, personnellement, je suis un septuagénaire, et j'ai commencé à m'intéresser à cette vie des intellectuels dans les années 50, 60, où il y avait, toutes les semaines, je lisais l'Express, où il y avait François Mauriac qui écrivait, il y avait Albert Camus, André Malraux, Sartre dans les temps modernes. Bon, au lycée comme à l'université, si vous voulez, les gens de ma génération, nous avons été vraiment...
Gâtés.
Oui, entourés par des gens qui avaient tort ou raison, peu importe, mais... où il y avait des débats d'idées entre les hussards et puis les sartriens, bon, etc. Où il y avait je ne sais combien de journaux culturels, comme Art, comme les Lettres françaises, le Figaro littéraire, qui publiait indépendamment du journal.
Comme Esprit. Oui.
Alors ça, c'est des revues. Esprit, voilà. Les temps modernes, la droite avait La Parisienne, La Table ronde. Enfin, vous voyez, il y avait quand même une sorte d'effervescence intellectuelle que l'on peut regretter, que personnellement je regrette, mais je ne veux pas pleurer, je ne veux pas avoir une attitude nostalgique, et je me dis qu'il y a aujourd'hui, pour un intellectuel, pour les intellectuels, des choses à faire, et d'abord, et premièrement, justement, à nous faire comprendre quel est l'état de la situation. Nous faire comprendre...
Faire comprendre, vous dites ça, je relis à la fin donc, de l'effet de génération, vous dites, et ce sera... Ma dernière question sur quel est l'avenir des intellectuels. Donc, l'intellectuel ne doit plus penser, pour reprendre la formule de Marx, transformer le monde, mais avant tout, le penser. Et vous dites, il doit non seulement le penser, mais donner sens donner du sens à notre vie collective.
Alors, voilà.
Apparemment, voilà. Les intellectuels que vous rangez dans la catégorie des enfants de Polycarpe ne répondent pas
non.
à cette demande qui est légitimement la vôtre.
Non, je ne veux pas être injuste et je ne peux pas dire que j'ai tout lu et tout écouté, mais je ne sens pas ça. Hein. Je ne sens pas ce désir-là. Alors qu'il me semble qu'il y a d'autres intellectuels dans mon livre, bon, je cite en particulier Marcel Gaucher, Pierre Rosanvallon, des gens comme ça, qui nous donnent justement du sens de l'époque dans laquelle nous vivons. Parce que l'avenir, avant tout, est fait de l'intelligibilité de notre situation. D'où venons-nous ? Ça, c'est à l'historien d'en parler, de fournir les arguments. Où sommes-nous aujourd'hui ? Et vers quoi nous nous dirigeons et quelles sont les pistes vers lesquelles, et qui ne sont pas évidemment inscrites d'avance, mais les pistes que nous pourrions emprunter, les moins mauvaises, etc. Quelles sont les valeurs que nous devons défendre ? Et je crois que dans un monde aussi chaotique que le nôtre, car au fond, nous avons insisté, et je vous parlais de ma jeunesse étudiante, etc., les choses étaient assez claires avec la guerre froide. C'était une histoire du monde simplifiée que celle-là. Et même s'il y avait un tiers-monde, hein, ça faisait guère que trois parties. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, l'extraordinaire émiettement des partis, des idées, des influences, des religions, des... on a l'impression d'un vrai chaos et qu'en face de ce chaos, ou au-dessus de ce chaos, toutes les grandes instances internationales perdent pied ou n'ont pas l'autorité suffisante, qu'il s'agisse de l'Union européenne, qu'il s'agisse de l'ONU, on a l'impression qu'elles sont largement dépassées précisément par cet inconnaissable chaos. Donc, étudier le chaos, savoir ce qu'il représente, ce qu'il est, quelles sont les racines, comment nous pouvons justement remettre un peu d'ordre dans nos idées, dans notre intelligence des faits. Nous ne pouvons plus raisonner de manière simpliste, dualiste, manichéenne. Il faut que nous comprenions la complexité, c'est un mot cher à Edgar Morin, un autre intellectuel que je cite et qui tente justement de nous donner du sens. Comprendre la complexité du monde pour pouvoir, sur la base de cette compréhension, de cette intelligibilité, agir.
Eh bien, écoutez, Michel Vinocq, merci beaucoup. Donc, nous avons essayé de prolonger un tout petit peu, et je renvoie nos auditeurs à ce dernier livre, donc l'effet de génération, où vous développez entre autres l'idée qu'effectivement, à chaque génération, il y a une problématique, et effectivement, nous avons essayé, ce qui est toujours un exercice difficile, de voir quelle est ou quelle serait la problématique nouvelle. Et donc, vous renvoyez nos auditeurs, et je renvoie nos auditeurs, donc au débat que nous avons eu ici, sur Canal Académie, avec Pierre Nora d'une part, et aussi avec Marcel Gaucher, qui a eu la gentillesse de venir jusqu'ici et qui, effectivement, est d'une lumineuse clarté pour ces temps qui, comme vous le dites, sont obscurs. C'est le dernier mot quasiment de votre livre « Les effets de génération ». Je renvoie donc toujours nos auditeurs à ce livre de vous, donc « Le siècle des intellectuels » et cet autre, « Le dictionnaire des intellectuels français ». Michel Vinocq, merci.
Merci.